Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, la campagne électorale commence ce dimanche 19 novembre sur toute l'étendue de la RDC et se termine le 18 décembre 2023. Dans son communiqué à ce sujet, la CENI appelle les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux à veiller à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Célébration ce vendredi 17 novembre 2023 de la Journée mondiale de la prématurité. Au Sud Kivu, l'organisation SOS Préma, qui accompagne les enfants nés prématurés et leurs parents, a organisé une journée de sensibilisation dans la perspective de leur redonner de la joie et de l'espoir. Notre invité, le docteur Joseph Ntaguerwa, médecin pédiatre de l'hôpital de référence de Bukavu, qui s'occupe plus des cas des enfants nés prématurés. Il parle des facteurs qui favorisent la naissance des enfants prématurés et de la grande mesure de prévention contre la prématurité. Mesdames, Messieurs, bonjour. La campagne électorale commence le dimanche 19 novembre sur toute l'étendue de la RDC et se termine le 18 décembre 2023. Selon un communiqué de la CENI relatif parvenu ce vendredi à Radio Okapi, sont habilités à organiser des réunions électorales seuls les partis et regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs délégués. Tout en indiquant que les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national, la CENI appelle les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux à veiller à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. D'autres lignes de conduite établies par la CENI pour cette campagne électorale avec vous, grâce à Mzati Masanzi.
D'après la CENI, les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Cependant, elle interdit de tenir des propos injurieux ou diffamatoires, mais également des propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tiers, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République. Il est aussi interdit d'inciter quiconque à commettre des actes de nature à entraîner des violences, des menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits ou libertés, constitutionnellement garanti, poursuit le communiqué. La CENI ajoute que la position d'affiches, des photos et autres effigies de propagande électorale pendant la période de la campagne est autorisée, mais avec des conditions. C'est entre autres, chaque candidat indépendant, parti ou regroupement politique ne peut installer à ses frais, à proximité du centre de vote, qu'un seul panneau d'affichage. Tout affichage est interdit sur les édifices publics, conclut le communiqué de la CENI.
Le coordonnateur provincial de la Barza intercommunautaire du Tanganyika lance un message de paix et de cohésion entre toutes les communautés vivant dans cette province. Ludovic Kasongo a fait cette déclaration ce vendredi à Kalemie. D'après lui, en cette période préélectorale, il y a beaucoup d'agitation et de manipulation de certains politiciens et donc c'est le moment de cultiver la paix. Ludovic Kasongo, joint par Paul Mounanga.
Je vais lancer un message de paix à toute la jeunesse, à toute la population de la province du Tanganyika, de ne pas céder aux provocations. Le vivre ensemble, c'est quelque chose de très important, c'est très capital. La RDC, c'est un corps, comme un corps humain, qui a ses membres. Les composantes de la RDC, ce sont des ethnies et des tribus. Et personne n'a choisi d'être congolais. Personne n'a choisi d'appartenir à une quelconque ethnie ou tribu. C'est Dieu qui l'a voulu. Vous savez, nous sommes dans une période électorale qui est une période vraiment chaude qui bouillonne avec les sentiments de fanatisme politique d'appartenance, des fanatismes aussi tribalo-ethniques, puisque le vote est sociologique. Et si le vote est sociologique, comprenez ce que ça fait. C'est le moment que les messages de paix doit triompher. Le message de paix doit être relayé à tous les niveaux. Les messages de paix doivent être respectés par tout le monde.
L'étreinte d'un parent, une thérapie puissante, permettre le contact peau à peau dès la naissance. C'est le thème choisi pour la célébration de la Journée mondiale de la prématurité, célébrée le 17 novembre de chaque année. Au Sud Kivu, l'organisation SOS Préma, une structure qui aide et accompagne les enfants nés prématurés et leurs parents, a tenu une journée de sensibilisation hier jeudi dans les locaux de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, et ce, à l'intention des femmes, parents des enfants prématurés. Avec objectif échanger sur la situation que traversent certaines familles des enfants nés prématurés et leur redonner tant soit peu de la joie et de l'espoir. Rolande Simire Barouti, coordonnatrice de SOS Préma, revient sur cette journée au micro de Rachel Kessembangou.
La journée mondiale de la prématurité représente beaucoup pour nous car nous voyons premièrement la mère qui a su se battre au début de la grossesse jusqu'à la venue de l'enfant. Et cette journée aussi est une occasion de montrer à quel point les enfants nés prématurés et leurs familles sont très très forts. Mais aussi, ça nous permet de louer les efforts des personnes soignantes qui sont toujours là à la charge des patients, mères et enfants, et surtout ceux de la néonatologie. Nous avons déjà 4 ans que les SOS Préma RDC sont au service des enfants nés prématurés et leurs familles, en leur donnant l'accompagnement psychosocial, en payant aussi les factures et les produits des premières nécessités. Donc, les SOS Préma est toujours là, et particulièrement aux enfants nés prématurés les plus vulnérables. Nous voulons aider les enfants nés prématurés et leurs parents, car normalement, quand une famille accueille un enfant né prématuré, c'est pas vraiment facile. Beaucoup de familles ont du mal à accepter d'avoir un enfant né prématuré. Ils se demandent pourquoi nous. C'est pourquoi nous, SOS Préma RDC, nous avons mis en charge de ces parents qui ont des bébés nés prématurés, les psychologues pour les aider à surmonter le problème.
Nord Kivu, mauvaises conditions carcérales des détenus dans la prison urbaine de Kakwangura de Butembo. Si des décès sont rapportés depuis plus de 2 mois dans cette maison carcérale, des cas de tuberculose pulmonaire viennent d'y être diagnostiqués. Une situation qui inquiète les responsables pénitentiaires de la prison de Butembo. Marcel Papimoukeba pour les détails.
Les mauvaises conditions carcérales, sanitaires et hygiéniques sont à la base de cette situation. Selon des sources pénitentiaires, la prison urbaine de Butembo, qui a la capacité de 200 personnes, héberge actuellement plus de 900 détenus. La plupart de ces détenus souffrent de la diarrhée et d'une malnutrition sévère. D'après la même source, 30 cas de tuberculose pulmonaire viennent d'être diagnostiqués au sein de la prison de Butembo. La vie dans la promiscuité fait craindre pour les responsables pénitentiaires la propagation de cette maladie contagieuse. L'isolement des malades est pratiquement impossible suite à la surpopulation carcérale. En outre, l'air prise en charge à l'intérieur de la prison est encore très insuffisante, faute de médicaments et de nourriture en quantité et en qualité. Depuis 3 mois, la société civile et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme appellent les autorités de prendre à bras le corps la situation des détenus de la prison de Butembo. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
En Ituri, les organisations de la société civile ainsi que les autorités politico-administratives doivent soutenir les efforts des autorités de la santé dans la lutte contre le paludisme. C'est l'objectif de la matinée de sensibilisation que Tsandrou Santé Rurale, en partenariat avec la division provinciale en Ituri, a organisé hier jeudi à Bounia. Les participants doivent convaincre les membres de la communauté à utiliser correctement les moustiquaires imprégnés d'insecticides, ce qui pourra faire baisser la tendance du taux de morbidité et de mortalité du paludisme qui prend des proportions inquiétantes en Ituri, selon les autorités sanitaires. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Chefs de quartier, des avenues, bourgmestres des communes, acteurs de la société civile ont préparé à cette séance de sensibilisation. Selon les organisateurs de cette activité, cette lutte contre le paludisme ne relève pas seulement de la responsabilité des acteurs œuvrant dans le secteur de la santé. Le chef de la division provinciale de la santé en Ituri rappelle que le paludisme est la première pathologie qui entraîne beaucoup de décès en Ituri. Docteur Louis.
Nous devons gérer là où les moustiques se multiplient. Et si chacun s'impliquait dans l'assainissement, nous sommes en mesure d'inverser la tendance d'ici 2030 pour que toute la population congolaise vive sans beaucoup de décès chez les enfants et chez les femmes enceintes.
Pour inverser la tendance, certains habitants réclament une nouvelle campagne de distribution des moustiquaires. Ils estiment que les anciens reçus il y a de cela plus de 2 ans sont délabrés, ce qui entraîne de nouvelles contaminations à cause des piqûres des moustiques. Francine Moudjagani est infirmière.
Le nombre des patients souffrant de malaria peuvent effectivement augmenter parce que nombreux ne passent plus la nuit sous un moustiquaire. La dernière distribution date de longtemps. Nous demandons à Sanogo de vite doter la population des nouveaux moustiquaires.
Sans refustige l'attitude de certaines familles qui refusent l'accès aux enquêteurs dans leur ménage pour vérifier l'état de moustiquaires ou s'ils sont réellement utilisés à bon escient.
Retour en Ituri où environ 3 000 personnes qui avaient fui les récentes attaques des EDF au sud d'Irumu ont regagné depuis une semaine leur village d'origine dans la chefferie de Banyari-Tchabi, à environ 120 km de Bounia. Selon des sources locales, ce mouvement retour est motivé par la présence des forces conjointes FARDC armées ougandaises déployées sur place pour traquer ce groupe armé. Les casques bleus de la MONUSCO ont également intensifié les patrouilles pour assurer la protection de la population et lui permettre de vaquer à ses activités agricoles qui étaient paralysées à cause de l'insécurité. Détail avec Isaac Rémou.
Les groupements des Tondoli et des Boyo ont été les plus affectés par les dernières attaques des ADF du 5 et 8 novembre dernier qui ont entraîné les déplacements massifs de la population. La plupart de ces déplacés ont trouvé refuge à Tchabi Centre où se trouve une base des forces conjointes. D'autres s'étaient retranchés dans la brousse. Selon la société civile de cette entité coutumière, les FARDC et l'armée ougandaise ont renforcé leur position dans la zone, ce qui a encouragé le retour d'environ 600 familles dans une dizaine de villages dont Bandiboula, Bandikouma, Bandi Boli et Batanga. Parmi les retournés, il y a certains otages des ADF qui ont été libérés par les FARDC pendant les opérations pour traquer ces hommes armés. Les casques bleus de la MONUSCO font également des patrouilles, notamment vers Boulambahire et Boussio, ainsi que sur l'axe Tchabiboga. Cela a envie de permettre aux habitants d'accéder à leurs champs, affirment des sources de la mission onusienne. Des sources locales indiquent que ces retournés vivent dans des conditions difficiles, pas de vivres et des médicaments au centre de santé de Boussio. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capital.
Et dans la province de la Tchopo, Frivao, le fonds de réparation d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC est appelé à gérer en toute indépendance, équité et transparence tous les fonds alloués pour cette fin. Quelles sont les missions dévolues à cet établissement public à caractère social? C'est ce qui ressort de l'installation officielle de cette institution hier jeudi à Kinshasa, à Kisangani, par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Cette cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités dont les victimes des guerres marque l'opérationnalisation des activités de Frivao. Désormais, cette structure va procéder à la collecte des données nécessaires en vue d'assurer la réparation effective de tous les préjudices causés par l'Ouganda et permettre ainsi aux victimes de la Grande Orientale de rentrer dans leurs droits. La tâche n'est pas simple pour identifier les personnes éligibles à l'indemnisation. Le coordonnateur national de Frivao, Mgr François Mwarabu, en donne des précisions.
Les seront concernés ou mieux considérés comme victimes par ces fonds les personnes ayant subi le préjudice dans la période comprise entre 1998 et 2003. Nous assurerons également de manière optimale la communication aux victimes de toutes les procédures et étapes à suivre pour obtenir une réparation effective.
Pour sa part, Rose Mutombo, ministre de la Justice, propose qu'on puisse privilégier aussi les réparations collectives, notamment l'érection d'un mémorial en souvenir des victimes tombées sous les balles lors des affrontements entre les armées ougandaises et rwandaises dans les années 2000 à Kisangani. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Un programme de développement local des 145 territoires, le budget pour la construction et la réhabilitation des routes de dessert agricole, qui est la deuxième phase de ce programme, est passé de 260 millions de dollars américains à 1 milliard 250 millions. C'est ce qu'annonce la ministre du Plan, Judith Toutouka, qui s'est ainsi exprimée hier jeudi, ici à Kinshasa. C'était lors de la conférence de presse conjointe avec son collègue de médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Judith Toutouka est au micro de Paul Matendo.
Quand le programme a été élaboré, on a pris les éléments pour ces routes-là sur base d'anciens programmes qui ont eu à financer des routes, qui avaient aussi établi un certain nombre de données chiffrées pour les routes qui ont été choisies. Ce sont des routes de dessert agricole. Et nous avons eu à décaisser au niveau du gouvernement 12 millions de dollars pour l'étude de faisabilité des routes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les routes? C'est que, alors que sur base des données qu'on avait eues précédemment, le budget pour les routes était évalué à plus ou moins 260 millions de dollars. Suite aux études de faisabilité, ce budget est passé à 1 milliard 250 millions de dollars. Donc on a pratiquement multiplié par 5. Pourquoi? Parce qu'il a fallu tenir compte, non seulement ce n'était plus un entretien de 20 000 km plus réhabilitation de 20 000 autres, donc au total 40 000 km sur lesquels on devait travailler, on est arrivé, sur base des études de faisabilité, à devoir réhabiliter 40 000 km de routes de dessert agricole avec un certain nombre d'ouvrages.
Actualité internationale.
Dans le procès de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, les plaidoiries de la défense se sont achevées avec l'intervention des avocats des co-accusés de l'ancien chef de l'État. Parmi la dizaine de prévenus, il y a des anciens premiers ministres, des hauts fonctionnaires et hommes d'affaires. Pour rappel, 20 ans de prison ferme ont été requis par les procureurs contre l'ancien président mauritanien et entre 5 à 10 ans pour certains de ses anciens collaborateurs. Au Sénégal, ce vendredi se joue le sort de la candidature à la présidentielle du principal challenger du pouvoir, l'opposant Ousmane Sonko. La Cour suprême doit en effet se prononcer sur la légalité ou non de la radiation de l'opposant des listes électorales. Ultime recours devant la justice sénégalaise, alors que la Cour de justice de la CEDEAO doit également se prononcer aujourd'hui sur la participation d'Ousmane Sonko à la présidentielle de février prochain.
L'invité.
Notre invité, le docteur Joseph Ntaguerwa, médecin pédiatre de l'hôpital de référence de Bukavu, qui s'occupe plus des cas des enfants nés prématurés. Il parle des facteurs qui favorisent la naissance des enfants prématurés et de la grande mesure de prévention contre la prématurité. Et docteur Joseph Ntaguerwa s'entretient à Bukavu avec Rachel Kiesembangou.
Docteur Joseph Ntaguerwa, bonjour.
Bonjour madame.
Qu'en parle-t-on d'un enfant prématuré?
On parle d'un enfant prématuré si le nouveau-né vient de naître avant l'âge de 37 semaines d'aménorrhée.
Il existe trois niveaux de prématurité, lesquels?
Nous avons la prématurité modérée, c'est quand on est entre 32 semaines et 37 semaines d'aménorrhée. Nous avons la grande prématurité, c'est quand nous sommes entre 28 semaines et 32 semaines. Et nous parlons de l'extrême prématurité, quand nous sommes en dessous des 28 semaines de naissance de ce nouveau-né.
Qu'est-ce que nous pouvons savoir sur les causes, les facteurs de la prématurité?
Pour les causes de la prématurité, il y en a de trois niveaux. Ça veut dire qu'on va vous parler des causes ou des facteurs liés à la mère. On aura des causes ou des facteurs liés au fœtus. Et on aura des facteurs ou des causes liées à la grossesse elle-même. Mais je commence par les causes maternelles. Vous pouvez avoir chez la maman des infections urinaires non traitées peuvent être l'une des causes des prématurités. Des malformations congénitales de l'utérus. Vous pouvez avoir aussi de maladies chroniques comme par exemple le diabète, l'hypertension, comme l'anémie peuvent être des facteurs pouvant expliquer cela. Maintenant, si nous sommes du côté du fœtus, on peut avoir des causes qui peuvent être des causes de gémellité, donc grossesse multiple. Les enfants qui naissent de grossesses multiples habituellement n'arrivent pas à naître à terme. Ce sont des doublés, des triplés, des quadruplés et ainsi de suite. Et on peut avoir aussi, du côté de la grossesse, une cause qu'on appelle chorioamniotite. Ça veut dire l'infection qui atteint juste le placenta et les membranes du placenta. Ça peut être aussi des causes liées à la grossesse. Et au cours de la grossesse aussi, on peut avoir l'hypertension artérielle chez la maman, qu'on appelle préclampsie. On peut avoir également les hémorragies liées à la grossesse. C'est là que nous parlons des placenta previa. Décollement prématuré du placenta peuvent amener à ce que la femme ait un accouchement prématuré.
Quelle est la prévalence des naissances prématurés dans notre province du Sud Kivu?
Disons que les données en termes de prévalence ou de fréquence, il n'y a pas de données bien élucidées là-dessus. Il y en a des données au niveau mondial, c'est autour de 6,5% en moyenne. Et ça varie habituellement entre 4% et 16%, c'est ce qu'on peut dire dans le monde. Quoi.
Et comment prévenir la prématurité?
Tant qu'on connaît des causes, il faut maintenant y penser en termes des mesures préventives. Et le gros de prévention lié à cette prématurité, c'est sur le suivi de la grossesse chez la femme. Ça veut dire qu'on doit avoir des consultations prénatales. Il a été décrit que les grossesses qui ne sont pas bien suivies ou mal suivies peuvent être des causes de prématurité. Et donc, quand on fait les consultations prénatales, on arrive à dépister ces facteurs de risque que je viens de citer avant. Et quand il y en a, on peut le soigner.
Le thème développé, c'était étreinte d'un parent, une thérapie puissante, ce qui nous renvoie à la méthode kangourou. Parlez-nous-en.
La méthode kangourou, disons, c'est une méthode que nous pouvons dire, entre guillemets, c'est une couveuse humaine, ce qu'on peut dire, si on peut caricaturer. C'est comme l'animal kangourou qui garde son petit dans sa poche. Et donc, la maman qui vient d'avoir un enfant qui vient de naître, prématuré, elle arrive à réchauffer son enfant en faisant la méthode que nous appelons peau à peau. Donc la méthode kangourou, c'est la méthode peau à peau où la maman doit voir la torse qui est nue, la poitrine. L'enfant qui ne porte pas les habits, on essaie de les mettre sur la poitrine de la maman. On les couvre avec le bonnet pour la tête pour ne pas perdre la température. On le met aussi des chaussettes qu'elle doit porter et on les couvre maintenant avec un habit qui couvre et la poitrine de la maman et l'enfant. Et il est là, il est stabilisé sur le plan chaleur, sur le plan psychologique. Et donc la maman peut arriver aussi à les stimuler pour la respiration. Et l'enfant, il pourra grandir, gagner du poids. Il ne va pas en perdre parce qu'il n'aura pas froid.
Pour finir, comment prendre en charge les enfants nés prématurés?
Quand on a un enfant qui vient de naître, il doit obligatoirement être examiné à la naissance par les néonatologues, donc les pédiatres qui s'occupent des nouveau-nés, et il admet en néonatologie. Quand on l'admet en néonatologie dans les services, on a des principes de prise en charge. Le premier principe, nous devons le garder au début à la chaleur. On le met dans des couveuses, comme on en a ici, et par la suite, sera le kangourou quand il atteindra un poids qui est au-delà de 1500 grammes. Le deuxième principe, nous devons assurer les apports glycémiques. Il y a des apports qu'on le fait de perfusion et par la suite, ce sera l'alimentation par la sonde avec le lait maternel ou le lait artificiel. Le troisième principe, c'est la prise en charge des complications. Parmi les complications, il y a la détresse respiratoire. Il naît avec une détresse respiratoire que nous appelons difficulté respiratoire. Ça doit être pris en charge par des moyens qu'on a. On donne l'oxygène et voilà.
Je vous remercie.
Je vous remercie aussi, madame.
C'était notre invité, le docteur Joseph Ntaguerwa, médecin pédiatre de l'hôpital des références de Bukavu, Sud Kivu, qui s'entretenait avec Rachel Kessembangou. Ce journal est à présent terminé. Il a été supervisé par Alain Irung et coordonné par Jacques-Yves Molima, Pierre Diassinois, la mise en onde. À leur nom, je vous dis infiniment merci de l'avoir écouté.